Bonjour à toutes et à tous. Ça va? Vous savez comment on dit en guadeloupéen, ça va? Ça caille. Oui, ça caille ce matin. Quand j'étais en Guadeloupe, j'entendais toujours ça caille. Je disais, tiens, pourtant il fait chaud ici. Bon, c'est vrai, comme a dit Guillaume ce matin, c'est vrai, c'est difficile de passer après tout ce qu'on a entendu, parce que ce sont des choses qui sont difficiles. Mais comme on a parlé de l'Église persécutée, eh bien j'aimerais ce matin partager avec vous le thème suivant. D'où vient la persécution? Pourquoi la persécution? Et qui est derrière la persécution? Vous savez que la persécution, c'est un traitement injuste et cruel infligé à quelqu'un avec acharnement. Alors, ce matin, j'aurais aussi m'adresser à toutes celles et à ceux qui pensent que dans cette vie, dans ce monde, tout dépend à la fois de l'être humain et du hasard. J'aimerais rappeler ce qu'affirme la Bible dans Colossiens 1, verset 16, « Car c'est en Jésus que les choses visibles, comme les invisibles, dans le ciel et sur la terre, ont toutes été créées. » Et Hébreux 11, 3, « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisibilité. » Alors vous le voyez, tout comme la pièce de monnaie a deux faces, pile et face, eh bien notre monde est fait de choses visibles et invisibles, est fait de matière et d'esprit. Par contre, la Bible dit que tout ce qui est visible vient du monde invisible, vient de Dieu le Créateur, qui lui est esprit. Alors, à partir de cette constatation biblique, posons-nous cette légitime question ce matin: en quoi le monde invisible a-t-il une influence sur notre monde visible, charnel, matériel? Lucien Clerc, vous savez, c'était un évangéliste. Il a rapporté cette histoire sous le titre « Agent secret de Dieu ». Il dit « Madame Renée de Benoît, missionnaire aux Indes, a recueilli cette anecdote de la bouche même du Sadhu Sundar Singh, cet homme de Dieu qui a vécu au début du siècle. Chassé du village où il avait annoncé l'évangile, il cherche un refuge pour y passer la nuit. Soudain, une bande d'hommes armés s'avance vers lui. Il croit sa dernière heure arrivée, il ferme les yeux et fait monter une prière vers le Seigneur. Bientôt surpris, il se retrouve tout seul. Il se couche et s'endort paisiblement, et le lendemain, la même bande se retrouve devant lui. « Nous ne sommes pas venus te faire du mal, lui disent-ils, mais pour te demander qui était auprès de toi hier soir. Nous avions l'intention de te tuer, mais il y avait autour de toi tellement de monde que nous n'avons pas pu t'approcher. » Des anges de l'Éternel étaient venus entourer Sundar Singh à son insu, mais en réponse à sa prière. Vous voyez la relation qui est entre le monde visible et le monde invisible? Le monde invisible qui entoure le monde visible, c'est le royaume des cieux, qui est la sphère spirituelle où Dieu règne, où sa volonté s'exerce, s'accomplit. Le prophète Michée, dans une vision extraordinaire, dira dans 1 Roi 22-19, « J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône, tandis que toute l'armée des êtres célestes se tenait près de lui, à sa droite et à sa gauche. » Ça devait être merveilleux ce qu'il a vu, hein. Ces multitudes d'anges, ces myriades sont au service de Dieu et le servent jour et nuit et forment l'armée des cieux. Parmi cette armée des cieux, à l'origine, se trouvait une créature spirituelle de Dieu décrite dans le livre d'Ézéchiel, 28, verset 14. De cette manière, « Tu étais un chérubin protecteur de grande envergure sur ma montagne sainte. Tu étais irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où le mal se soit trouvé en toi. Ce chérubin protecteur est appelé dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 14, 12, « astre brillant », qu'on traduit par « Lucifer ». Selon un autre livre de la Bible, Ézéchiel 28, 2, et sans qu'on sache vraiment comment, eh bien l'orgueil est entré dans le cœur de Lucifer. Ton cœur s'est élevé et tu as proclamé « Je suis Dieu, je me prends pour Dieu ». Comme vous le voyez, Lucifer a voulu chasser Dieu de son royaume et prendre sa place sur son trône. Frères, sœurs, vous le savez, personne ne peut prendre la place de Dieu, ce n'est pas possible. Dieu, c'est le Créateur. Alors, une grande guerre a ébranlé l'harmonie du royaume des cieux. Elle s'est déroulée entre Lucifer et les anges qui se sont révoltés avec lui, et puis l'armée de Dieu. Et nous croyons que l'apôtre Jean, en exil sur l'île de Patmos, a eu la vision de cette guerre d'une manière imagée. Et on retrouve ça dans Apocalypse 12, verset 3. Et voici, je vis un grand dragon, rouge feu. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, c'est-à-dire adversaire, et Satan. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Précipité sur la terre, eh bien Satan et les démons vont constituer une sphère démoniaque qui va continuer son œuvre destructrice en s'attaquant à la création divine et en particulier à son chef-d'œuvre, l'être humain. Il y a eu une seconde guerre spirituelle. C'est celle qui conduit à la désobéissance humaine. Le monde spirituel mauvais livre sa première attaque. Et Satan s'introduit dans le jardin d'Éden sous la forme d'un serpent. Il pousse l'être humain à transgresser l'ordre de Dieu. Il l'incite à la désobéissance. En croquant le fruit, l'être humain est vaincu spirituellement, chassé de la présence de Dieu. Le péché entre dans l'homme et dans le monde. Satan prend sa revanche sur Dieu, en rendant l'homme esclave du péché, donc en le rendant mauvais. Et puis il y a une troisième guerre spirituelle, c'est celle de la réconciliation entre Dieu et l'homme par Jésus-Christ. Et Dieu, dans son amour ardent de Père créateur, n'a jamais renoncé à réconcilier l'homme perdu avec lui-même. Et il envoie pour cela Jésus, son Fils unique, qui en mourant sur la croix, et on l'a rappelé ce matin, prend sur lui les péchés de l'humanité. Rappelez-vous ce que dit Jean-Baptiste en voyant passer Jésus, Jean 1, 29, « Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, versets 13 à 15, nous rappelle que cette troisième guerre entre le monde visible et invisible se solde par le triomphe, par la victoire de Jésus à la croix sur Satan. Voilà ce qu'écrit l'apôtre Paul. Il a effacé l'acte aux 1000 articles qui nous accusait, car il mentionnait toutes nos transgressions de la loi de Dieu. Il l'a annulé, il l'a cloué à la croix. Il a démasqué et puis désarmé les autorités et les dominations de l'enfer, il a exposé leur faiblesse devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal à la croix. Voilà ce qu'a fait Jésus. Il a gagné le troisième combat spirituel. Par Jésus-Christ, Dieu a remporté pour l'humanité la victoire de la liberté. À la croix, non seulement Jésus a réconcilié l'homme avec Dieu, mais il l'a libéré de la puissance de Satan qui le retenait prisonnier. Alors cette victoire de Jésus à la croix a été vraiment capitale, mais elle n'a pas calmé les ardeurs maléfiques de Satan. Vous savez, le monde spirituel méchant va désormais s'attaquer au peuple de Dieu qui est en Jésus-Christ pour le persécuter. Et comment s'y prend-il ? Eh bien, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Galates, au chapitre 4 et 24, verset 24, explique d'une manière allégorique que c'est par la nature charnelle que Satan va persécuter la nature spirituelle en la poussant à la haine. Et c'est ça l'origine. Alors je vais vous inviter à lire ensemble Galates 4, 24, qui est un texte que je trouve personnellement très compliqué à comprendre. Aussi, je vous demande une grande attention pour comprendre que l'ancienne et la nouvelle alliance, d'un côté, et la nature charnelle et la nature spirituelle sont à la base de la persécution. Voilà, je vous lis le texte. Dites-moi, vous qui voulez vivre sous le régime de la loi, ne comprenez-vous pas ce que déclare la loi ? Il y est écrit qu'Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière toute humaine. Le fils de la femme libre, lui, a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Interprétons cela comme une image. Ces deux femmes représentent deux alliances. L'une de ces alliances, conclue sur le mont Sinaï, donne naissance à des enfants esclaves. C'est Agar qui la représente. En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, car celle-ci vit dans l'esclavage avec tous ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Or vous, frères, vous êtes les enfants de la promesse comme Isaac. Mais autrefois, le fils conçu de manière toute humaine, persécuté, le fils né par l'intervention de l'Esprit. Et il en est de même aujourd'hui. Or, que dit l'Écriture ? Renvoie l'esclave avec son fils, car le fils de l'esclave n'aura aucune part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas les enfants d'une esclave, mais de la femme libre. C'est compliqué, hein ? C'est hyper compliqué, moi, je trouve. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment bien compris l'importance de l'allégorie de Paul dans ce thème que nous traitons sur la persécution. Et il a cette image sous l'inspiration éclairée du Saint-Esprit. Et il rappelle l'histoire d'Abraham qui est une image de ce qui se passe dans le monde invisible. Alors, rappelons brièvement l'histoire d'Abraham. Vous savez, Dieu, il s'est choisi un homme, Abraham, qui le fait sortir d'Ur en Chaldée, en lui laissant cette promesse, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. » Comme nous, Dieu nous a fait sortir aussi de notre condition humaine pour nous amener vers une nouvelle vie. Abraham n'avait pas d'enfant. Sa femme était stérile et le temps passant, la promesse de Dieu devenait de plus en plus difficile à croire. Alors, par leur pensée charnelle, humaine, Abraham et Sarah, qui étaient pour le premier âgés de 100 ans et la seconde de 90 ans, et étaient stériles, ont pensé que si la promesse devait s'accomplir par Abraham, elle devait s'accomplir avec une femme féconde et non pas avec Sarah. Alors Sarah proposa donc à Abraham d'aller vers sa servante Agar, une esclave égyptienne, pour réaliser la promesse de Dieu. De cette relation naquit un fils, Ismaël. Mais Ismaël ne pouvait pas être l'enfant de la promesse. Ce n'était pas cette promesse que Dieu avait faite. Il était le fruit des pensées humaines, d'un arrangement entre Abraham et Sarah. L'apôtre Paul dira que le fils de l'esclave naquit selon la chair, selon la nature humaine. Pourtant, Dieu n'a pas renoncé à sa promesse qu'il reformule à Abraham et Sarah. Genèse 18, 10, l'an prochain à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Voilà, voilà, je réitère ma promesse. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé. Sarah devint enceinte, et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, qu'il appela Isaac. Isaac, c'est l'enfant de la promesse, le fils légitime, le fils de la femme libre. L'apôtre Paul utilise cette histoire, somme toute banale, pour nous expliquer une grande vérité biblique. Tout d'abord, les deux femmes, Agar, l'esclave, et Sarah, la femme libre, sont l'illustration de deux alliances. Agar et Ismaël, c'est l'ancienne alliance, celle de la loi et des œuvres. Sarah et Isaac, la nouvelle alliance, c'est celle de la grâce et de la foi. Voyez les deux alliances ? La conception d'Ismaël représente la façon de faire de l'homme. C'est ce qu'on fait, nous, sans Dieu. C'est la voie de la chair, la voie du légalisme. Voilà. Ismaël, c'est ça. Agar, c'est ça. Ismaël symbolise toutes celles et ceux qui n'ont que la naissance naturelle et s'appuient sur leurs propres œuvres, leurs propres forces. Isaac symbolise celles et ceux qui sont nés de nouveau. C'est la naissance spirituelle de toutes celles et ceux qui ont mis leur foi en l'œuvre de Jésus-Christ. Vous voyez la différence ? Est-ce que vous avez compris ? Oui, c'est clair. Toutes celles et ceux qui ne sont pas des enfants légitimes, qui sont passés par la seule naissance charnelle, sont des enfants de l'esclavage, comme Ismaël. Il reste sous l'esclavage de Satan et du péché. L'apôtre Paul dit d'eux qu'ils forment la Jérusalem terrestre, celle d'en bas, celle qui rejette à la fois le Christ et la grâce. Voilà. Les descendants d'Ismaël, la nature charnelle, c'est ceux qui rejettent Jésus-Christ et sa grâce. Par contre, celles et ceux qui sont nés spirituellement en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, sont des enfants de Dieu légitimes. Ils sont libres en Jésus-Christ, comme chrétiens. Nous sommes citoyens des cieux, nous sommes de la Jérusalem d'en haut, libres du péché, délivrés de l'esclavage de Satan. Vous voyez les deux alliances, ancienne alliance, nouvelle alliance, chair, esprit. L'apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, conclut sa démonstration en disant, et ça c'est important, retenez-le, « Vous, chers frères, vous êtes les enfants de la promesse, tout comme Isaac. Mais aujourd'hui, comme alors, celui qui ne connaît que la naissance selon la nature persécute celui qui est né de l'Esprit. » Frères, sœurs, vous comprenez d'où vient la persécution. Toutes celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu en vérité, qui ne sont pas passés par la croix de Jésus-Christ, sont manipulés par Satan, et leur cœur ténébreux haïssent celles et ceux qui appartiennent à Christ, comme Ismaël persécutait Isaac par jalousie. Je comprends. C'est-à-dire que Ismaël, il était jaloux d'Isaac, et il le persécutait. Nous l'avons constaté lors de la première partie donc, du culte, avec Dominique, Jean-Haut, etc., enfin, tous ceux qui ont participé, que l'Église persécutée du Christ l'est le plus souvent par le monde religieux extrémiste ou le monde communiste. C'est souvent dans ces pays-là qu'on trouve la persécution. Mais qu'en est-il pour nous qui vivons dans des démocraties ? Dans des sociétés christianisées quand même. Eh bien, nous pensons sincèrement, généralement, que nous ne faisons pas partie de l'Église du Christ persécuté. C'est vrai qu'en France, on ne meurt pas pour notre foi. Je crois pas. Si ? Pas encore. D'accord. Avons-nous raison de penser cela ?
Est-ce que vous avez raison de penser qu'on n'est pas persécuté? Eh bien, dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul affirme d'une manière catégorique, 2 Timothée 3,12, « Tous ceux qui sont décidés à vivre dans l'attachement à Dieu par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. » Voilà. Dans cette lettre à Timothée, l'apôtre Paul rappelle que la persécution concerne ou concernera toutes celles et tous ceux qui, à la surface de la terre, sont unis à Jésus-Christ, c'est-à-dire vous et moi. La persécution qui nous touche, alors c'est vrai, elle est différente, elle est plus insidieuse, plus cachée, mais son origine est la même. Satan et ses sbires. Vous savez, Job, lui, c'était pas un croyant vivant au milieu des intégristes musulmans, hindouistes ou communistes, hein. Cet homme a été persécuté par Satan, pourquoi? Pour son intégrité vis-à-vis de Dieu. Intégrité que Satan a remis en cause devant Dieu. Job 1, verset 10, et Job 2, voilà ce que dit Satan. Il dit, « N'as-tu pas élevé comme un rempart de protection autour de lui, autour de sa maison et autour de tous ses biens? Tu as fait réussir ses entreprises ?» Ses troupeaux se sont multipliés dans le pays. Mais porte la main sur ses biens et sur sa famille. Porte la main sur sa santé. Et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. C'est facile, tu l'as béni. Hein, c'est facile, c'est normal qu'il te suive. Mais maintenant, t'as qu'à le persécuter et tu verras s'il va te suivre. Satan, l'accusateur, cherche à nous discréditer devant Dieu. Dieu permet à Satan l'épreuve de la persécution pour éprouver notre foi. Job, lui, il a perdu ses enfants, ses biens, il a été touché dans sa chair par une douloureuse maladie, il a été persécuté moralement par ses proches, sans jamais maudire une seule fois Dieu. Au contraire, il a prononcé des paroles pleines de confiance. Job 2,10, « Nous recevrions de Dieu le bonheur et nous ne recevrions pas aussi le malheur ?» Et puis Job 19, 25, « Mais je sais, moi, que mon défenseur est vivant. Il se lèvera sur la terre pour prononcer le jugement après que cette peau aura été détruite. Moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. » Vous vous rendez compte, la confiance de Job, persécuté, humilié, abattu. Si c'est bien Satan qui persécute les chrétiens, Dieu lui garde toute autorité, toute maîtrise. Job 2,6, l'Éternel dit à Satan, il est en ton pouvoir, mais épargne sa vie, je ne t'autorise pas à le tuer. Vous le voyez, l'issue de l'épreuve ne dépend pas de Satan, mais de Dieu lui-même. Si Dieu permet que nous passions par la mort, rappelons-nous ce que dit Jésus. Matthieu 10,28, ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui, Dieu, qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. L'apôtre Pierre décrit notre adversaire, notre ennemi, d'une manière vraiment effrayante. 1 Pierre 5,8. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Frères, sœurs, nous sommes dans un combat permanent avec un adversaire qui rôde et veut nous dévorer tout cru. Il veut nous faire peur pour nous décourager. Il veut nous séparer de Dieu, notre source protectrice et spirituelle. Il veut nous empêcher de briller dans ce monde, de témoigner, d'exercer nos dons et nos ministères. Voilà ce qu'il veut. Moi, personnellement, j'ai pu expérimenter cette persécution spirituelle dans mon ministère d'ancien et de prédicateur. Ça fait 32 ans que je suis dans ce ministère. Chaque fois que je prépare une prédication, je sais que je vais être spirituellement attaqué et je dois m'y préparer avec l'aide du Seigneur. Dans Éphésiens 6, verset 10, il est marqué « Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure que Dieu vous donne afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. » Vous savez, avec Satan, les attaques sont toujours les mêmes. Mais elles revêtent des formes différentes et peuvent parfois me surprendre. Et des fois, je suis surpris même. Je me dis, je les attends et je suis surpris. Ils m'attaquent sur la santé. Je suis bien, je suis en forme, tout, et paf, je prépare quelque chose, je suis malade. Mais ça m'inquiète, ça m'épuise. Ils posent des problèmes à des membres de ma famille autour de moi, et ça m'inquiète aussi. Ils me bombardent de mauvaises pensées, de pensées impures qui viennent comme ça, et que je dois chasser, et c'est terrible. Ils créent des conflits entre mon épouse, Wardia et moi. Alors qu'on s'entend bien, et puis paf, d'un seul coup, on a l'impression que c'est plus fort que nous, et il faut qu'on se combat. Et des fois, on a du mal à comprendre. Et souvent, et en particulier, pour les messages d'évangélisation, y a des problèmes récurrents de voitures, de chaudières, de garages. La dernière fois, il y a mon voisin qui m'a explosé mon garage. Alors que Wardia, elle avait une réunion en chemin, et puis moi je préparais un message d'évangélisation. À 3h du matin, il est venu, il a explosé le garage, et ça fait 8 mois que notre garage est cassé. C'est incroyable. Toutes ces attaques en forme de persécution spirituelle n'ont qu'un but, c'est nous décourager. Nous décourager, et que l'on laisse tomber notre ministère, et puis qu'on dise « Oh là là, j'en peux plus, aller. » Je me consacre à autre chose. Paul appelle cela les traits enflammés du malin, les flèches. Ce qui est important dans la persécution, c'est de ne pas se tromper d'adversaire. Éphésiens 6:12. Voilà ce que dit Paul. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Mon ennemi, ce n'est pas le musulman. Le musulman, ce n'est pas mon ennemi. Le voisin qui me persécute, non. Mon épouse, Wardia, ce n'est pas elle, mon ennemi. Voilà. L'ennemi, dit l'apôtre Paul, c'est Satan et la puissance invisible, ténébreuse. C'est ça, mon ennemi. Jésus, dans sa belle prière sacerdotale de Jean 17, prie en priorité pour deux choses. Premièrement, Père, demande Jésus, qu'il soit un en nous, comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. C'est notre proximité spirituelle, notre intimité avec Dieu qui nous protège. Et puis la deuxième, Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver de l'esprit du malin, de l'esprit du mal. C'est cet esprit du mal qui est derrière la persécution, derrière le persécuteur qu'il faut discerner et combattre, contre lequel nous devons demander à Dieu qu'il nous protège. Jésus, qui avait ce pouvoir de discerner les esprits, a pu voir derrière les propos de l'apôtre Pierre l'esprit du mal qui voulait le détourner de sa mission terrestre salvatrice. Matthieu 16, versets 21 à 23, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, où les responsables du peuple, les chefs des prêtres, le feraient cruellement souffrir. Il devait être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Alors Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas !» Mais Jésus, se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi, tu es pour moi un obstacle à ma mission, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées humaines. » Satan s'est servi des pensées humaines, des peurs de l'apôtre Pierre pour détourner Jésus de sa belle mission. Vous savez, en réalité, Jésus n'abandonne jamais ni ses enfants ni son peuple dans l'épreuve de la persécution. Dans le psaume 84 des fils de Corée, on peut lire ceci. Car l'Éternel est pour nous comme un soleil, il est comme un bouclier. L'Éternel accorde bienveillance et gloire, il ne refuse aucun bien à ceux qui cheminent dans l'intégrité. Éternel, Seigneur des armées célestes, bienheureux est l'homme qui met sa confiance en toi. Frères et sœurs, pendant l'épreuve de la persécution, notre grand Dieu, tel un soleil, est brusquement obscurci par les épais nuages de l'ennemi qui veut nous cacher sa face. Pendant un temps, nous ne voyons plus le soleil. Pourtant, le soleil n'a pas disparu, il est bien toujours là. présent derrière les nuages, nous protégeant tel un bouclier. Bien heureux sommes-nous si nous lui faisons confiance jusqu'au bout dans l'épreuve. Et je vais conclure en disant que si Satan et les démons sont bien l'ennemi numéro un, à la fois de Dieu, du chrétien et même de l'être humain, s'ils sont bien les acteurs principaux de la persécution chrétienne, on ne peut pas tout leur imputer. Ils ne sont pas responsables de tout, car nous avons un libre arbitre et un défenseur puissant derrière lequel nous pouvons à tout moment nous protéger. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, si Satan est bien responsable de la tentation, il n'a pas pour autant forcé Adam et Ève à désobéir en mordant dans le fruit défendu. C'est pas lui qui a dit « Allez, il faut le faire, je vous oblige, ou je vous décapite ». Jamais Satan fait ça. De même, s'il est le père du mensonge, c'est de notre responsabilité de rester dans la vérité de celui qui dit « Je suis la vérité ». Si Satan s'évertue à diviser, notre responsabilité est de travailler à conserver l'unité dans l'Église, dans la famille et partout. Cette unité que nous a offert Jésus, Jean 17, 21. Si Satan est un lion qui s'attaque à nous, eh bien l'apôtre Pierre nous dit « Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi ». 1 Pierre 5,9. Ça, c'est notre responsabilité. Si Satan nous plonge dans l'inquiétude, eh bien, la Bible nous dit « Déchargez-vous sur Jésus de tous vos soucis ». 1 Pierre 5,7. Si Satan nous persécute, eh bien, dans la parole, c'est marqué « Ne vous inquiétez pas », dit Jésus. « Ce sera l'Esprit de votre Père qui parlera à travers votre bouche. » Si Satan nous réclame pour nous passer au crible, comme on secoue le blé, eh bien, réfugions-nous en prière auprès de Jésus. Luc 22, 31. Si Satan veut nous attirer vers le péché, par nos sens, par nos pensées, Dieu dit « Le péché est tapis à ta porte, son désir se porte vers toi, mais toi, domine sur lui, maîtrise-le » Genèse 4, verset 7. Vous voyez, Satan a des pouvoirs, il peut nous persécuter, mais nous, on a aussi des billes et on peut aussi... par nous-mêmes, vraiment, et en Christ, se protéger. Voilà. Je vous prie maintenant de prendre un moment pour prier.